Ok, donc on commence, Inch'Allah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui la suite donc des cours du livre اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم écrit par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah et avec les commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et aujourd'hui, c'est le cours 93 de ce livre. Donc on est encore dans le volume 2. Ça fait un bout de temps qu'on a commencé le livre, mais on s'était arrêté pendant une période pour pouvoir se concentrer donc pendant l'hiver, étant donné qu'il y avait moins de temps, donc pour se concentrer sur ce qui est plus facile à, étant donné qu'on avait moins de temps. Donc là, l'été revient, les prières sont plus écartées, donc on a le temps de faire plusieurs cours pendant la journée. Puis aussi, moi, de mon côté, j'ai plus de temps libre en ce moment, donc j'en profite pour faire plus de cours, alhamdoulilah. Et donc, on reprend donc ce livre qu'on avait laissé. Et on est arrivé au point dans le livre, parce que le sujet, si vous vous souvenez, de Iqtida Sirat al-Mustaqim, c'est un livre écrit par Ibn Taymiyyah au sujet des preuves de l'islam qu'il est interdit pour les musulmans d'imiter les non-musulmans, d'imiter les kuffars. Et le cheikh, il a écrit le livre pour ça. L'interdiction d'imiter les kuffars, non seulement dans les façons de s'habiller, les façons de parler, mais surtout dans leurs croyances, dans leurs pratiques religieuses, parce que ça, c'est quelque chose qui nous amène au kufr et au shirk. Et le cheikh, on a vu les preuves dans le Coran, les preuves dans la sunna. Maintenant, il commence à expliquer les preuves dans l'ijma. L'ijma, c'est le consensus des sahaba. Et qu'est-ce qu'il a mentionné comme preuve dans l'ijma à propos de ça? C'est les conditions que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu avait prises avec les gens de la Syrie, de la Palestine, lorsqu'ils ont conquis ces terres-là et ces endroits, ces pays-là. Donc les musulmans, lorsqu'ils sont rentrés en Syrie, en Palestine et dans ces régions-là où il y avait des chrétiens et des juifs, ils ont pris avec eux des ententes. Les chrétiens de ces endroits-là ont accepté de se rendre, de se soumettre à certaines conditions. Et parmi ces conditions-là, on voit que les conditions qui sont mentionnées, c'est que les kuffars, parmi les juifs et les chrétiens, ils ne doivent pas imiter les musulmans. On leur interdit de s'habiller comme les musulmans et ils n'ont pas le droit d'exposer, de montrer ouvertement leur religion dans les pays musulmans. Donc ça, c'est l'exemple des règles qui ont été établies dans l'islam. Et ça, ça a été établi à l'époque de Omar ibn al-Khattab. Et c'est basé sur le Coran et sur la Sunna. Et c'est quelque chose qui a été accepté par tous les sahabas de l'époque. Et donc ça fait partie de la sunna des Khulafa al-Rashidin. Et il y a l'ijma à ce sujet-là, c'est-à-dire il y a le consensus des sahaba là-dessus. Donc ça veut dire que personne n'a le droit de renier ça, ça fait partie de l'islam. Pourtant, à notre époque, on a entendu de la part de certains égarés qui ont été influencés par les idéologies des koufars qui veulent dire ça, c'était pas correct. Qui disent non, Omar, qu'est-ce qu'il avait exigé dans ces conditions-là ou qu'est-ce qui avait été écrit dans ces conditions-là, c'était injuste envers les gens du livre et des choses de ce genre. Et ça, c'est grave parce que de renier ça, c'est comme s'il reniait en réalité l'islam. Parce que ça fait partie de l'islam, ça fait partie des enseignements de l'islam, et c'est des enseignements qui sont justes. Mais eux, ils voient les trucs selon les valeurs des koufars à notre époque, et les soi-disant droits de l'homme, et des choses de ce genre, et donc ils se mettent à critiquer et juger l'islam de cette façon-là. Et j'ai entendu même dans un des cours, une des conférences de Tariq Ramadan, et qui disait, il faut admettre qu'on a fait des erreurs dans notre histoire, et donc il mentionnait comme exemple ces exemples-là. Tu vois, il disait, il faut admettre qu'on a fait des erreurs dans notre histoire, il faut reconnaître ça. Qu'est-ce que Omar ibn al-Khattab et les Sahaba ont accepté, ça c'était une erreur, alors que c'est confirmé et supporté par les preuves du Coran et de la Sunna. C'est où est-ce que tu as compris ça, c'est ce genre d'erreurs, de choses-là. Donc on va lire la suite de qu'est-ce qu'on a commencé à lire. Parmi les points, il y en avait plusieurs, on était rendu au point numéro 13. Donc on a lu jusqu'à date 13 points, on est rendu au point 14 maintenant. Donc le point 14, Cheikh Al-Fawzan il dit وَمِنْهَا أَنْ يَلْزِمُوا زَيَّهُمْ حَيْثُمَا كَانُوا يعني أَنْ يَلْتَزِمَ الذِّمِّيُّ بلباسه الخاص به فلا يشابه المسلمين في لباسهم ويكون هذا في كل مكان سواء خالط المسلمين او كان لوحده. Donc le point numéro 14, c'est que les koufars qui vivent parmi les musulmans, qu'on appelle ahlul dhimma, les chrétiens et les juifs en particulier, ils doivent respecter et garder leur propre apparence, leur propre mode leur propre habillement. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas essayer de s'habiller comme les musulmans. Ils n'ont pas le droit de s'habiller de la même manière que les musulmans. Donc le dhimmi, il doit porter ses vêtements à lui, ses propres vêtements à lui, qui ne ressemblent pas aux vêtements des musulmans. D'accord ? Et ça, c'est en tout temps, peu importe qu'il soit parmi les musulmans ou qu'il soit seul, il n'a pas le droit de s'habiller de la même manière que les musulmans. Le point numéro 15, وَمِنْهَا أَنْ يَشُدَّ الزَّنَانِيرَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ لِأَنَّ هَذَا مِنْ عَادَةِ النَّصَارَى وَالزُّنَّارِ حِزَامٌ عَرِيضٌ يُشَدُّ عَلَى الْوَسَطِ لِلْعِبَادَةِ وَيَشُدُّونَهُ فِي الْكَنَائِسِ لِصَلَوَاتِهِمْ. Donc le cheikh explique que le point numéro 15, également ils doivent porter la ceinture autour de leur taille. Ça c'était une habitude des chrétiens, les prêtres, les moines et autres, ils portaient toujours une corde autour de la taille. Et ça tient comme une ceinture en réalité, et ils l'utilisent pour se tenir pendant l'adoration ou des choses comme ça, et ils le mettent également lorsqu'ils vont à l'église pour faire leur prière. Donc ça, c'est une chose qui distingue les musulmans des non-musulmans, c'est-à-dire cette corde ou cette ceinture qu'ils portent autour de leur taille. Le point numéro 16, وَمِنْهَا أَنْ لَا يُظْهِرُ الصَّلِيبَ عَلَى كَنَائِسِهِمْ وَالصَّلِيبُ هُوَ كَمَا يَزْعُمُونَ سُورَةُ الْمَسِيحِ عليه الصلاة والسلام مصلوبا على الخشبة بعد قتله من قبل اليهود بزعمهم. Donc le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan hafizahullah, il dit parmi les exemples également de choses qu'ils doivent respecter, c'est qu'ils ne doivent pas exposer la croix sur leurs églises dans les pays musulmans. Ils n'ont pas le droit de mettre en apparence ou d'exposer la croix sur leurs églises, parce que cette croix, il dit le cheikh, la croix c'est quoi? C'est l'image ou la représentation de Jésus crucifié sur deux morceaux de bois après l'avoir tué, hein, après que les Juifs l'aient tué. Donc ils prétendent ça eux. Ça c'est ce qu'ils prétendent, c'est dans leur croyance. Le Cheikh il dit wa hadha as-salib ghayr ma'ruf fi din an-nasara min qabl wa innama huwa min ihdath al-yahudi الذي ادعى أنه اتبع المسيح وتنسك بالنصرانية لأجل أن يغير ويدس في دين المسيح عليه السلام ما ليس منه ومن ذلك تعظيم الصليب وهم لغباوتهم أطاعوه وكان الواجب عليهم كسره لأن في ذلك إذلالا لهم وظهورا لليهود عليهم حيث ادعوا بأنهم قتلوا عيسى عليه السلام مع أنهم لم يقتلوه والله جل وعلا يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. Donc le cheikh il dit que cette croix elle n'était pas connue dans la religion des chrétiens au début. C'est quelque chose qui a été ramené par la suite par le juif qu'on appelle Paul. Il s'appelait Saoul ou Shaoul. Après, il a changé son nom pour Paul. Il a prétendu qu'il a entendu Jésus lui parler sur le chemin de Damas. Et qu'il lui aurait dit, « Pourquoi me persécutes-tu ? » Et à ce moment-là, il a cessé. Et il est allé rejoindre les apôtres de Jésus. Et il leur a dit, « Je veux être chrétien. J'ai entendu Jésus sur le chemin. Il m'a parlé. Il m'a dit ci et ça. Maintenant, je suis un des vôtres. » En réalité, bon, il a travailler pour essayer justement de corrompre le message de Jésus, Isa ibn Maryam, et de changer la religion que Jésus avait réellement enseignée. Et le cheikh, il dit, c'est lui qui a ramené dans la pratique des chrétiens l'utilisation de la croix, alors qu'en réalité, elle ne faisait pas partie des enseignements de Jésus. Hein? Et c'est eux donc qui aurait incité les chrétiens à prendre cette croix. Et il dit que donc il a corrompu la religion de Jésus et il a rajouté dans leur religion ceux qui n'en faisaient pas partie, comme l'exemple de vénérer la croix. Et eux, à cause de leur bêtise, ils lui ont obéi et ils ont accepté de vénérer la croix au lieu de la détruire. Parce qu'en réalité, ils auraient dû la détruire puisque c'est un signe de leur humiliation. Parce que les Juifs, c'est eux qui ont prétendu vouloir tuer Jésus, le fils de Marie. Alors qu'en réalité, ils ne l'ont pas tué. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 157 dans sourate An-Nisa, « وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ » وَمَا قَتَلُوهُ, ça veut dire quoi? Ils ne l'ont pas tué. وَمَا صَلَبُوهُ, ils ne l'ont pas crucifié. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, mais c'est ce qui leur a apparu. En arabe, la croix c'est salib. On dit en arabe salib. Et le verbe salab, yusallibu, c'est le verbe de crucifier. Ici, wama salabuhu, ils ne l'ont pas crucifié. Et c'est ça. Et donc, ça ne fait pas partie de la religion des chrétiens. C'est quelque chose qui a été rajouté après. Et donc le cheikh il dit wa khulasatul amr annana la namna'uhum min wad'i as-salib fi buyutihim aw fi kana'isihim khafyatan amma idharuhu 'ala al-kanisa aw 'ala al-buyut aw 'ala al-mustashfa aw 'ala as-sayyara fa hadha mamnu'un fi bilad al-muslimin. Donc le cheikh il dit en résumé, il dit que nous on les empêche pas de mettre une croix dans leur maison s'ils veulent la mettre dans leur maison, ou de la mettre à l'intérieur de l'église s'ils veulent, ils peuvent la mettre à l'intérieur, mais ils ne peuvent pas l'exposer ou le mettre à l'extérieur. D'accord? Dans les pays musulmans, oui. Ils peuvent le mettre dans leurs maisons, dans leurs hôpitaux, à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Ou bien ils veulent la mettre dans leur voiture à l'intérieur, ils peuvent la mettre à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ça, c'est dans les pays musulmans. D'accord? Le point numéro 17, il dit « وَكَذَلِكَ كُتُبُهُمْ أي كُتُب النَّصَارَ وَالْيَهُودِ لَا يُظْهِرُونَهَا فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ كالتوراة والإنجيل المحرفين والمنسوخين فإن الله جل وعلا أغنانا بالقرآن فلا يجوز لنا أن نسمح بتداول نسخ التوراة والإنجيل في بلاد المسلمين لأن هذا فيه مشاركة للقرآن وإظهار لغير القرآن مع أن القرآن جاء للعالم جميعا فهو خاتم الكتب ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة للرسالات خاتمة الرسالات. Donc, le cheikh il dit de même que leurs livres, les livres des juifs et des chrétiens, ils n'ont pas le droit de les exposer, de les mettre en apparence dans les pays musulmans, comme la Torah et l'Évangile, qui ont été falsifiés et qui ont été abrogés. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le Coran. Et le Coran, le Coran fait en sorte qu'on n'a aucun besoin d'autres livres, à part lui. Donc il n'est pas permis pour nous de permettre que la Torah ou l'Injil soit à la portée de main des gens dans les pays musulmans. Parce que c'est comme si il devenait كأن فيه مشاركة للقرآن comme si ça venait accompagner le Coran. Dans ce cas-là, c'est pas permis. Et c'est comme si on exposait autre, on mettait en apparence autre que le Coran. Alors que le Coran est un livre qui est venu pour tout le monde, toute l'humanité et le monde entier, et c'est le dernier des livres. Et c'est le livre qui est venu scellé, par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il a scellé tous les messages précédents. C'est le dernier des messages. Donc on ne peut pas permettre que d'autres livres soient exposés autres que le Coran. Le point numéro 18, c'est le point suivant. ومنها أن لا يضربوا نواقيسهم لا يضربوا نواقيسهم نواقيسهم وكنائسهم في بلاد المسلمين إلا ضربا خفيفا. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit non plus de faire sonner leur cloche dans les pays musulmans, excepté un petit coup très léger. Donc ils ne peuvent pas faire sonner leur cloche très fort dans les pays musulmans. Et parmi les points également, وَمِنْهَا, le point numéro 19, وَمِنْهَا أَنْ لَا يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ مَعَ مَوْتَاهُمْ لِأَنَّ مِنْ عَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ عَمَلُوا مِثْلُ هَذِهِ الْمُنْكَرَاتِ فَيُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ. Donc il dit, ils n'ont pas le droit non plus d'élever leur voix lorsque quelqu'un d'entre eux est mort, comme dans une funéraille ou quelque chose comme ça, parce qu'il dit le cheikh que ça c'était une tradition des chrétiens de faire ce genre de choses mauvaises. Lorsque un d'entre eux meurt, ils font beaucoup de bruit, et donc ils doivent être interdits de faire ce genre de choses là dans les pays musulmans. Et le point numéro 20, dernier point, minha an la yuzhiru an-niran مع جنائزهم فلا يجوز لهم إظهار هذا الأمر. De même que, par exemple, les funérailles, ils amenaient des feux, ils allumaient des feux pour leurs funérailles. Donc ça c'est pas permis pour eux de montrer ce genre de pratique aussi dans les pays musulmans. Non pas pour brûler les morts, mais comme si peut-être que quand ils faisaient comme ils marchaient avec le cercueil, ou bien ils partaient avec le cercueil pour l'enterrer ou quoi, ils amenaient avec eux des feux ou des choses comme ça pour accompagner le cercueil, puis il dit le cheikh que donc ils n'ont pas le droit de faire ça. Ça, ça fait partie des conditions que l'islam a enseigné vis-à-vis des gens de dhimma. Et c'est ça que parfois certains koufars aujourd'hui, par exemple, ils critiquent l'islam à cause de ça. Ils disent, ah, mais pourquoi vous les musulmans, vous donnez pas la liberté de religion aux chrétiens et aux juifs dans les pays musulmans? C'est pas vrai. On donne la liberté de religion aux chrétiens et aux juifs dans les pays musulmans, mais avec certaines conditions. C'est pas liberté absolue. Parce que c'est des religions fausses. On peut pas leur donner le même statut que la religion de vérité. Hein? Et également, certains disent oui, mais regardez maintenant dans les pays non musulmans, en Occident, ils nous laissent pratiquer l'islam. On peut construire des mosquées, on peut faire ci, on peut faire ça. Donc pourquoi dans les pays musulmans, on ne laisserait pas les chrétiens faire la même chose? Parce que c'est pas une question de donnant-donnant. Hein? C'est pas ici, par exemple, que tu me frottes le dos, je te frotte le dos. Hein? Tu me laisses enseigner la vérité, donc je vais te laisser enseigner le faux dans les pays musulmans. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Eux, ils ont ces principes de dire que ils croient pas en les religions, ou bien ils laissent toutes les religions faire ce qu'ils veulent dans leur pays. Ça, c'est leur choix, c'est leur principe à eux. Mais dans l'islam, ça n'existe pas ça. Dans l'islam, les gens qui appellent au kufr et au shirk, au bid'ah et aux égarements, on ne leur donne pas la liberté de le faire. Et ils n'ont pas le droit de le faire dans les pays musulmans. Il n'y a pas cette liberté-là. Il n'y a pas la liberté de croyance, c'est-à-dire de croire en autre que la vérité. La liberté, c'est pour croire en la vérité, pas pour croire en qu'est-ce qui est faux. Mais si les juifs et les chrétiens, eux, ils refusent d'accepter la vérité, ils peuvent continuer à rester sur leur fausse religion, mais avec certaines limites, avec certaines conditions. C'est ça l'islam. C'est comme ça que l'islam enseigne. Et par rapport à ces conditions-là, j'ai trouvé le charh de Cheikh Ibn Uthaymin du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim. Donc c'est le même, sauf qu'il est en un seul volume. Celui de Cheikh Al-Fawzan, il est en 5 volumes. Celui de Cheikh Ibn Uthaymin, il est en un seul volume. Et son commentaire, il est moins élaboré, moins détaillé. Donc, il y a un point par contre qu'il a mentionné ici quand il a parlé de ces conditions-là que j'ai beaucoup aimé. Et c'est pour ça que je vais lire en même temps pour clarifier un point très important. Et c'est le suivant. Il dit « هذه الشروط في الواقع كأنها حلم وهذه الشروط كانت من عمر رضي الله عنه وتبعه الأئمة رحمهم الله والمراد بالأئمة ليس أئمة الدين بل أئمة الحكم تبعوه على هذا ولكن متى هذا؟ لما كانت العزة للمسلمين وكانوا أعزاء بدينهم أما بعد أن صار والعياذ بالله كثير منهم أتباعا لغيرهم حتى في مسائل الدين وتقليد الكفار أذاقهم الله الذل ونزع المهابة من صدور أعدائهم وصاروا إلى ما ترى نسأل الله أن يعز الإسلام من جديد أما هذه الشروط فلا نحتاج للحديث عنها لأن شرحها يطول والفائدة العلمية منها غير موجود ولكن من أراد أن يطبق هذا الآن بدون سلطان ولا إذن هل هو محمود أم مذموم؟ الجواب لا شك أنه مذموم لأنه يوجد هناك من الشباب المتحمس إذا قرأ هذه الشروط قال لا بد أن أطبقها حتى تعود لنا العزة فنقول أولا ائت بالعزة ثم طبق أما أن تطبق فرعا على أصل لم يوجد فهذا من السفه في العقل والضلال في الدين فأولا ائت بالسبب الذي يوصلك أن تفرض على الكفار مثل هذه الشروط. Donc le cheikh il fait un point qui est intéressant ici. Il dit que ces conditions là en réalité, c'est comme si c'est un rêve. Il dit, c'est des conditions qui ont été établies à l'époque de Omar. Et les imams, les dirigeants, l'ont suivi après. Et il dit, c'est pas les imams de la religion, mais les imams du pouvoir, ceux qui avaient l'autorité, qui étaient les dirigeants. Ils l'ont suivi dans ça. Et le cheikh, il dit, mais quand est-ce que ces choses-là sont appliquées? Quand est-ce que ces conditions-là sont appliquées? Il dit, c'est quand les musulmans sont puissants. Et il dit, dans le passé, les musulmans étaient puissants par leur religion. Mais après, que Allah nous préserve, beaucoup d'entre eux sont devenus des suiveurs dans leur religion, même dans les questions de religion. Hein? Ils ont suivi les autres et ils ont imité aveuglément les kuffars. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala les a fait goûter à l'humiliation par la suite à cause de ça. Et il a retiré du cœur de nos ennemis la crainte et le respect. Donc les ennemis, ils n'ont plus peur des musulmans, ils n'ont plus le respect pour eux. À cause du fait qu'ils ont délaissé leur islam. Et donc ils sont devenus comme ce que tu vois actuellement. Et il dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il redonne à l'islam la puissance encore une fois. Il dit, en ce qui concerne ces conditions-là, est-ce qu'on a besoin d'en parler en détail, de les expliquer en détail? Il dit, les expliquer, premièrement, c'est quelque chose qui est très long. Et il dit, le bienfait sur le plan de la science qui en découle n'est pas présent, puisqu'on ne peut pas les appliquer. À quoi ça sert de les étudier en détail si on ne peut pas les mettre en application? Il dit, mais celui qui veut les appliquer actuellement, sans autorité, sans permission du dirigeant, est-ce que c'est louable ou blâmable? Le cheikh, il dit, la réponse, c'est que c'est blâmable. Pourquoi? Parce que il y a certains jeunes aujourd'hui qui sont excités, hein, et que quand ils lisent ces conditions-là, ils disent, il faut que j'applique ça pour que la fierté et la puissance reviennent aux musulmans. Alors, le cheikh, il dit, nous, on dit à ceux-là, premièrement, ramène la puissance et après, tu les appliqueras. Après, tu l'appliqueras. Mais de vouloir appliquer quelque chose qui est une branche sans ramener la base, hein, tu veux ramener, c'est comme l'arbre. Hein, toi, tu veux ramener une des branches de l'arbre, mais tu n'as même pas le tronc. Ça ne marche pas. Hein, donc, ramène le tronc et l'arbre au complet. Après, on va mettre cette branche dessus. C'est ça que ça veut dire. De vouloir l'appliquer sans avoir la puissance, c'est de la bêtise, c'est de la sottise. Hein? C'est une faiblesse dans la raison. Et c'est de l'égarement dans la religion. Donc il dit, ramène la cause en premier, qui va te permettre de pouvoir établir ce principe-là, c'est-à-dire faire en sorte que tu aies les causes nécessaires pour avoir cette puissance, et après tu pourras imposer ces conditions-là au kuffar. Mais de vouloir le faire avant, ça c'est de la sottise. Et ça, c'est un point très intéressant. Et plus loin, il dit, fi maqam al-quwwa yulzamuna bit-taghyir hatta la yushabihuna, amma idha kana al-amru bil-aks fal-wajib alayna nahnu an nughayyir. Ça, on va le voir après. Il dit que lorsque les musulmans sont en situation de force et de puissance, c'est nous qui allons imposer aux kuffars de se distinguer de nous. Mais dans la situation où les musulmans, c'est le contraire, c'est eux qui sont en situation de faiblesse, alors dans ce cas-là, c'est à nous de nous distinguer d'eux, de ne pas leur ressembler, de ne pas les imiter. Mais vous allez voir, le cheikh Al-Fawzan, après, il va donner d'autres exemples et d'autres commentaires sur ce sujet-là en détail aussi. Dans le livre, il y a un autre point, il y a un autre exemple aussi où il cite, Ibn Taymiyyah cite d'autres conditions. Et c'est les suivantes. Attends, on va les lire ensemble. C'est ça. Il dit, وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى رَوَاهَا الْخَلَّالِ وَأَنْ لَا نَضْرِبَ نَوَاقِسَنَا إِلَّا ضَرْبًا خَفِيًّا فِي جَوْفِ كَنَائِسِنَا وَلَا نُظْهِرَ عَلَيْهَا صَلِيبًا ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون وأن لا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين وأن لا نخرج باعوثا والباعوث يخرجون يعني يخرجون يجتمعون كما يخرج يوم الأضحى والفطر ولا شعانين ولا يرفعون ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين ولا نجاورهم بالخنازير ولا نبيع الخمور إلى أن قال وأن نلزم زينا حيثما كنا ولا نتشبه بالمسلمين في لبس القلنسوة القلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم ولا نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا ولا نشد الزنانير على ونشد الزنانير على أوساطنا. Ça c'est les conditions qu'on a mentionnées, les mêmes que celles qu'on a mentionnées, qui ont été rapportées par Al-Khallal dans son livre. Et Al-Khallal, c'est un des compagnons de l'imam Ahmad. Il a cité ces conditions-là. C'est les mêmes que qu'est-ce qu'on a mentionné, de ne pas frapper la cloche, excepté un coup très faible et à l'intérieur de leurs églises, de ne pas montrer la croix, de ne pas élever la voix lorsqu'ils font la salat, de ne pas réciter dans leurs églises qu'est-ce que les musulmans assistent lorsqu'il y a une assistance de musulmans ou quelque chose comme ça, de ne pas sortir une croix ou bien un livre dans les marchés des musulmans, de ne pas sortir comme nous on sort le jour de l'Aïd al-Adha ou l'Aïd al-Fitr en grand nombre pour aller faire leur célébration ou des choses de ce genre. En tout cas, toutes les exemples aussi par rapport à l'habillement, qu'ils ne doivent pas porter le taqiyya ni le turban comme les musulmans, ils ne doivent pas non plus porter les sandales comme celles que les musulmans portent, ni leurs cheveux de la même manière que les musulmans, ni de monter leur monture de la même manière que les musulmans, ni de parler de la même manière que les musulmans, ni d'utiliser les kunyas que les musulmans utilisent, leurs cheveux, ils doivent les séparer d'une autre façon, et ils doivent porter la corde autour de leur taille, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des choses qui indiquent que ceux qui disent que, par exemple, quand on leur explique qu'on n'a pas le droit d'imiter les kuffars, on mentionne les preuves, et on leur mentionne les versets dans le Coran, ils n'acceptent pas. On leur mentionne les hadiths dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'acceptent pas. Et là maintenant on leur montre même l'ijma des sahaba à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Non seulement les sahaba, ils disaient on n'a pas le droit d'imiter les kuffars, mais ils interdisaient même aux kuffars d'imiter les musulmans. C'est pour te montrer à quel point c'était sérieux et important qu'il y ait cette distinction-là. Aujourd'hui, comme le cheikh il va le dire, c'est comme le contraire à l'époque actuelle. Cheikh Al-Fawzan, il commente donc ces exemples-là qu'on a mentionnés de Al-Khallal, et il dit وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى رَوَاهَا الْخَلَّالِ أَنْ نَضْرِبَ بِنَوَاقِيسِنَا إِلَّا ضَرْبًا وَأَلَّا نَضْرِبَ بِنَوَاقِيسِنَا إِلَّا ضَرْبًا خَفِيًّا فِي جَوْفِ كَنَائِسِنَا. هذه رواية أخرى فيما جعل عمر على أهله على أهل الذمة من الشروط وسنسردها سردا وقد سبق معظمها في الرواية الماضية ومنها أن لا يظهروا علينا صليبا ولا يرفعوا أصواتهم في الصلاة وهذا سبق أي لا يرفعون على كنائسهم الصليب كما كان ذلك قبل أن يأخذ المسلمون عليهم العهد ومنها أن لا يرفع أصواتهم في القراءة أي قراءة كتبهم في الكنائس وكأن يرفعوه بمكبر صوت بل يكون بصوت خفي فيما بينهم ولا يسمع من الخارج وهذا لم يسبق ذكره. Donc il mentionne, le cheikh il dit, on va mentionner les exemples qui ont été mentionnés ici dans le livre. Il dit que même si la plupart d'entre elles ont déjà été mentionnées, et il a mentionné par exemple l'exemple de ne pas montrer la croix, ça c'était mentionné, de ne pas élever leur voix dans leur prière ou leur pratique religieuse, et de ne pas montrer la croix, ok, de ne pas élever la voix. Il dit c'est comme par exemple quand ils lisent leurs livres dans leurs églises, qu'ils ne doivent pas le faire avec un micro ou un haut-parleur pour que les gens à l'extérieur entendent qu'est-ce qu'ils disent. Ça doit être entre eux et yani, pour que personne entende à l'extérieur. Ça, on ne l'avait pas mentionné, le cheikh dit. Il dit ومنها أن لا يخرجوا صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين وأن لا يخرجوا باعوثا يعني منع إظهار الصليب كما سبق والجديد هنا أن لا ينشروا كتبهم في أسواق المسلمين كالمكتبات. Donc ils ne doivent pas vendre leurs livres religieux dans les librairies des musulmans et dans les souks, dans les marchés. والباعوث, ils ne doivent pas faire le al-ba'uth. Qu'est-ce que c'est al-ba'uth? Comme le cheikh l'a expliqué, il dit بِأَنَّهُ اجْتِمَاعٌ يَخْرُجُونَ لَهُ كَمَا يَخْرُجَ الْمُسْلِمُونَ لِعِيدَ الْفِطْرُ وَعِيدَ الْأَضْحَى فَهُوَ مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ عِبَادَتِهِمْ فَلَا يَصْنَعُوا هَذَا فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ. Donc ils n'ont pas le droit de faire ça dans les pays musulmans, c'est-à-dire sortir en groupe et de se réunir comme on fait nous lorsqu'on fait Eid al-Adha ou Eid al-Fitr. Ça c'est pas permis. Et il dit wala ash-sha'anina. Ash-sha'anin naw'u ta'abbudatihim. En passant, ces conditions-là, vous les trouvez dans Tafsir Ibn Kathir. Vous les trouvez dans Tafsir Ibn Kathir. Regardez le verset 29 dans sourate At-Tawbah. Verset 29, l'explication du verset 29 dans sourate At-Tawbah, il les a toutes énumérées. Toutes les conditions de Omar. Et on les trouve aussi dans d'autres livres de tafsir également. Et aussi dans tous les livres de fiqh, dans tous les madhahib. Madhab Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali, dans le chapitre, des chapitres qui parlent des règles du djihad et des choses de ce genre, à la fin, on trouve ces règles-là, dans les livres qui sont plus détaillés, hein, les plus gros volumes là. Il parle de ces conditions-là dans les règles qu'on appelle Ahkam ou Ahl al-Dhimma. Et comme j'avais dit déjà auparavant, il y a même un livre qui a été écrit par l'imam Ibn al-Qayyim juste sur ce sujet-là en particulier, hein, de deux volumes. Donc c'est un sujet yani, qui est connu par les musulmans. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par, comme les koufars ils disent aujourd'hui, comme ils pensent que chaque fois qu'on parle de certaines règles de l'islam, ils disent ah, ça c'est les salafistes qui ont inventé ça, ou c'est les wahhabites qui ont inventé ça, alors que ça a existé depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ça a été appliqué par les sahaba et transmis par les imams de l'islam jusqu'à nos jours. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Et donc il dit wala sha'anina yani ash-sha'anin نوع من تعبداتهم يفعلونه في كنائسهم وبيعهم. Donc الشعانين, c'est une autre pratique religieuse qu'ils ont, يعني, c'est le fait que peut-être ils font des chants ou je ne sais pas quoi, une sorte d'adoration qu'ils font dans leurs églises. Et il dit ومنها أن لا يرفعوا أصواتهم مع موتهم. Il dit quand quelqu'un est mort, ils ne vont pas élever la voix. On a déjà vu ça. ومنها أن لا يتجاوز أن لا نجاوزهم بالجنائز ولا نبيع الخمور. Donc il dit لأن النصارى يستبيحون الخمر فلا يظهرون عرضها في بلاد المسلمين. Donc les chrétiens, eux, ils se permettent l'alcool, hein? Donc eux ils le boivent l'alcool, mais ils n'ont pas le droit de l'exposer dans les pays musulmans. Donc s'ils vendent l'alcool ou ils achètent l'alcool entre eux, mais ils ne doivent pas l'exposer ou le mettre à la vue des musulmans. Il dit وَأَنْ نُلْزِمَ زَيَّنَا حَيْثُمَا كُنَّا وَأَنْ لَا نَتَشَبَّهَ بِالْمُسْلِمِينَ فِي لُبْسِ قَلَنْسُوَا وَلَا عِمَامَةَ وَلَا نَعْلَيْنَ وَلَا فَرْقَ شَعْرٍ. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, Al-Qalam, soit c'est la taqiyya. C'est ça, le chapeau qu'on met sur la tête, là. Qu'est-ce qu'on appelle le kufi, ou on l'appelle aussi le taqiyya. C'est ça, le qalam, soit. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les Arabes, à l'époque, ils portaient par-dessus un turban. Ils l'enroulaient autour. Al-taqiyya, ils l'appelaient al-qalam, soit. Oui. Oui. Et al-taqiyya. C'est-à-dire, Al-Qalam, c'est le petit chapeau qu'ils mettent sur la tête et ils entouraient ça avec un turban. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que les koufars, ils n'avaient pas le droit de porter. Ils n'avaient pas le droit non plus de séparer leurs cheveux de la même manière que les musulmans, ni de monter sur leur monture de la même manière que les musulmans, et ainsi de suite, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit par la suite, après avoir mentionné les narrations à ce sujet-là, il dit هذه الشروط il dit هذه الشروط وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها.
Donc le cheikh il dit ça c'est des conditions qui sont parmi les plus célèbres dans les livres de fiqh et les livres de science, et c'est des choses sur lesquelles il y a un accord comme un consensus en grande partie. La plupart de ces points là sont les savants sont tous d'accord à leur sujet chez les ulama et les imams qui sont suivis comme les madahib, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad, et ceux qui les ont suivis parmi leurs compagnons et leurs élèves dans la plupart des madahib, ainsi que les autres imams de l'islam, les savants de l'islam. Et si ce n'était pas de la popularité de ces conditions-là, on les aurait mentionnés avec leurs termes dans chacun de ces différents madhab, qu'est-ce que chacun d'entre eux ont dit à ce sujet-là. Et il dit wahiya asnaf, donc c'est des catégories de règles. Et il dit as-sinful awwal ma maqsuduhu at-tamyiz 'an al-muslimin fi ash-shu'ur wal-libas wal-asma' wal-maraqib wal-kalam wa nahwaha liyatamayyaz al-muslim 'an al-kafir ولا يتشبه أحدهما بالآخر في الظاهر ولم يرضى عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل التمييز بل بالتمييز في عامة الهدي على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع وذلك يقتضي إجماع المسلمين على التمييز عن الكافر عن الكفار ظاهرا وترك التشبه بهم ولقد كان أمراء الهدى مثل العمرين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit que ensuite la première catégorie des règles qui ont été mentionnées dans ces conditions là c'est les celles dont le but est de distinguer les musulmans des non musulmans dans la façon de placer nos cheveux ou de faire nos cheveux, dans les vêtements, dans les noms, dans les montures, dans la parole, et ainsi de suite. Pour que le musulman soit distinct du non-musulman, et pour que l'un ne ressemble pas à l'autre dans ce qui est apparent. Et Omar, il n'a pas été satisfait seulement dans les bases de la distinction, mais de façon générale, dans tous les aspects de la façon d'être et de la guidance, et dans les détails bien connus, qu'on a expliqué ailleurs que maintenant, dans d'autres endroits. Et donc, il dit que ça implique qu'il y a un consensus des musulmans sur la question de la distinction des koufars, de la distinction d'avec les koufars dans l'apparence, et de délaisser la ressemblance avec les koufars. Et les dirigeants de la guidance, comme Al-Umarayn, c'est-à-dire Abu Bakr et Omar, et d'autres également, ils étaient vraiment stricts dans la réalisation de
l'application de ces conditions-là et de ces principes-là. Et on va donner, il va donner par la suite des exemples de ça dans la pratique des khulafa, comment ils ont insisté pour que ces choses-là soient respectées. Hein? Ils vont donner des exemples de ça et on va lire plus tard les explications. Il est maintenant 7h40 et dans 10 minutes c'est le maghrib. Laissez-moi juste voir quelque chose. Ok, on va lire ce dernier paragraphe puis on va s'arrêter inshallah. Donc le cheikh Al-Fawzan il explique à propos de ce qu'on vient juste de lire, il dit وَهَذِهِ الشُّرُوتُ أَشْهَرُ شَيْءٍ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ المقصود أن عمر رضي الله عنه فرض على أهل الذمة من اليهود والنصارى زيادة على دفعهم الجزية للمسلمين وخضوعهم لأحكام الدين جملة من الشروط تتعلق بتمايزهم عن المسلمين حتى يكون المسلمون أعزاء موحدين لا يندمج معهم أهل الذمة وهذه الشروط مجمع عليها بين المسلمين لم يخالف عمر فيها أحد ولولا أنها مشهورة ومعروفة لاستقصاها الشيخ رحمه الله كما يقول. Donc le cheikh il explique que ces conditions là sont très célèbres dans les livres de fiqh et de science. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que Omar radiallahu anhu il a établi ces conditions là pour les gens de la dhimma parmi les juifs et les chrétiens, en plus du fait qu'ils doivent payer la jizya, hein, aux musulmans, et qu'ils doivent se rabaisser, hein, et être, hein, humiliés devant les musulmans dans ce sens-là. Ils doivent se soumettre aux règles de la religion de façon générale, hein, de la religion musulmane. Donc, en plus de ça, ils doivent respecter ces conditions. Et il dit, ces conditions-là sont reliées à la distinction qu'ils doivent avoir d'avec les musulmans. Pour que les musulmans puissent être fiers et puissants et unifiés. Et qu'ils ne se mélangent pas avec les gens de la dhimma. Et ces conditions-là, c'est des choses qui sont établies et que tous les savants sont d'accord. Tous les savants ont été d'accord sur ces conditions-là et aucun d'entre eux n'a divergé avec Omar sur ça. Et si ce n'était pas du fait qu'elles sont très très connues, le cheikh il les aurait énumérées, chacune des paroles de ces imams à ce sujet. Mais il dit وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ هَذَا التَّمَايُزْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ لَمْ يَعُدْ مَوْجُودًا الْيَوْمِ وَذَلِكَ بِسَبَبِ ضَعْفِ الْمُسْلِمِينَ وَتَعَطُّلِ الْجِهَادِ وَلَكِنَّ الْغَرَضَ مِنْ ذِكْرِ هَذِهِ الشُّرُوطِ هُوَ بَيَانُ ضَرُورَةٍ أن يكون هناك فرق بين المسلمين وغيرهم فيتميز المسلمون عن الكفار ولا يتشبهون بهم وهذا أمر مجمع عليه. Donc le cheikh il dit que la réalité c'est que la distinction des musulmans et des non-musulmans c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, hein, malheureusement. Et le cheikh il dit que ça c'est à cause de la faiblesse des musulmans et à cause du fait que le djihad a été arrêté. Et il dit que l'objectif de mentionner ces conditions-là ici, c'est d'expliquer la nécessité de savoir qu'il faut qu'il y ait cette distinction-là entre les musulmans et les non-musulmans pour que les musulmans se distinguent des non-musulmans et qu'ils ne leur ressemblent pas, qu'ils ne les imitent pas. Et c'est ça, c'est une chose sur laquelle tous les savants sont d'accord. Donc c'est ça le but de mentionner ces conditions-là maintenant. C'est de faire savoir que ça existe dans la charia et que ça existe dans l'islam. Il dit « وَتَصْنِيفُ أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَوْلُهُ وَهِيَ أَصْنَافِ الصِّنْفُ الْأَوَّلِ مَا مَقْصُودُ التَّمَيُّزُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي الشُّعُورِ وَالْقِسْمُ الْأَوَّلِ يُقْصَدُ مِنْهُ بَيَانِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ بِأَنْ يَمْنَعَ التَّشَبُّهُ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ ليحصل التميز بذلك ولا يختلط الكفار بالمسلمين بحيث لا يميز بينهم ولا يقال أنهم مواطنون يظهرون بمظهر الوطن كما يقال الآن. Donc le cheikh il dit qu'il y a des catégories de règles parmi les règles des gens de la dhimma, et parmi ces règles-là, les règles qui distinguent les musulmans des non-musulmans dans la façon de mettre leurs cheveux et ainsi de suite. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc le cheikh il a expliqué que l'explication des distinctions entre les musulmans et les non-musulmans, pour qu'il n'y ait pas de ressemblance entre les deux, et pour qu'ils puissent se distinguer, et pour qu'il n'y ait pas de mélange entre les koufars et les musulmans, de façon à ce qu'on soit plus capable de les distinguer. C'est-à-dire que si tu marches dans la rue et tu vois des musulmans et des non-musulmans, tu vas savoir qui est musulman et qui n'est pas musulman, sans avoir à leur demander ou à leur poser la question, est-ce que tu es musulman? Est-ce que tu es chrétien? Non, tu les vois, tu le sais tout de suite. Hein? Et ça c'est très, tu vois, dans certains pays, tu vas aller dans certains pays, même des pays où il y a une majorité musulmane, comme je me rappelle la dernière fois quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais à Abidjan, puis je ne pouvais pas savoir qui est musulman, qui n'est pas musulman, parce que tout le monde est pareil. Et ça c'est une chose que je trouvais triste, hein, que c'était dommage que ce soit comme ça. Tandis que tu vas aller au Mali par exemple, et là-bas c'est clair que les gens sont, la plupart des gens, tu sais que c'est des musulmans, ils ont leurs habits traditionnels. Là-bas c'est très facile de savoir en général, mais sinon même encore là-bas, il y a des gens qui sont influencés un peu par les modes occidentales, qui veulent à tout prix s'habiller à l'occidental, comme c'est le cas dans les pays arabes également. Et ça c'est un des exemples que le cheikh essaie de justement critiquer dans ce genre d'explication. Et donc on ne doit pas dire par exemple, comme c'est dans le cas de certains, qu'est-ce qu'ils disent par exemple dans certains cas, que non, il ne faut pas distinguer entre les musulmans et les non-musulmans. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ils disent il ne faut pas distinguer entre les musulmans et les non-musulmans parce que ce sont des citoyens, et donc tous les citoyens doivent disons montrer leur appartenance à la patrie au pays, peu importe leur religion. Donc ça c'est le discours qu'on entend actuellement. Le cheikh il dit ça c'est pas correct, et il dit, comme c'est dans le cas dans certains pays, comme ils disent, non mais peu importe que tu sois juif, que tu sois musulman, l'important c'est que tu sois de tel pays, t'as la nationalité, t'es un citoyen, donc ça y est, c'est ça l'important. Ta religion c'est pas, il faut pas se diviser par rapport à la religion. Non, ça c'est pas vrai. Le musulman, il doit se distinguer du non-musulman. Même s'il est dans le même pays, même s'il a même citoyenneté, même couleur, même langue, il ne doit pas ressembler au non-musulman. Et le cheikh dit wa qawluhu wa laqad kana umara'ul huda mithlu al-umarayn wa ghayrihima yubalighuna fi tahqiq dhalika, yani umara'ul muslimin yulzimuna al-mujtama' fi tamyiz al-muslimin 'an al-kuffar fi kulli shay. ولا يتساهلون في ذلك بل ينفذون هذه الأحكام بجدية. Donc le cheikh il dit ici que ces choses-là, les grands imams de la religion comme Abu Bakr et Omar, ils faisaient des efforts pour établir et réaliser cette distinction entre les musulmans et les non-musulmans dans la société. Ils ne prenaient pas ces choses-là à la légère, et ils exécutaient ces règles-là avec sérieux. D'accord? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera le sujet au prochain cours, inshallah, la semaine prochaine. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, les fantaises.